Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Belinda Bosuma.
Jean-Pierre Lacroix clôture son séjour au Nord Kivu. Il vient de visiter différents contingents de la force onusienne à Moubambiro. Le chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU est allé encourager les forces onusiennes à assurer la protection des civils. Vous l'entendrez. Santé. Au moins 145 cas de monkeypox signalés dans le Kwango, dont 2 décès. 10 sur les 14 zones de santé de cette province sont touchées par la maladie, signale le ministre provincial de la Santé. Docteur Apollinaire Yumba lance un SOS au gouvernement central pour la prise en charge des malades. Et puis, l'invitée de ce midi, Liliane Komba, vice-présidente de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, elle nous parle de l'opération de collecte de fonds qu'elle a initiée récemment en faveur des femmes victimes de viols dans la prison de Makala à Kinshasa. Madame, Messieurs, bonjour. Jean-Pierre Lacroix a bouclé son séjour de 48 heures au Nord Kivu, où il est arrivé mercredi. Au dernier jour de cette mission ce jeudi, il a échangé avec les responsables du mécanisme conjoint de vérification peu avant de visiter différents contingents de la force onusienne basée à Moubambiro, près de Sake. Nous sommes à 27 kilomètres à l'ouest de Goma. Sur place, il a visité diverses installations de la force et la salle de chirurgie tenue par le contingent malawite. Cette salle, installée depuis 2 mois environ, prend en charge les blessés de guerre, civils, FARDC et combattants Wazalendo. Cela avant leur évacuation vers Goma. Le secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des opérations de maintien de la paix inscrit cette visite de terrain dans le cadre du réconfort afin d'encourager les forces onusiennes à assurer la protection des civils. On écoute Jean-Pierre Lacroix au micro de Denise Lukesso.
Les enjeux de cette visite, c'est de rendre visite à nos collègues qui sont sur le terrain, d'échanger avec eux sur à la fois l'état de leur préparation, leurs défis, et de les encourager à continuer dans leur mission, qui est une mission de protection des civils, qui est une mission au service de la paix, une mission au service de toute cette région, en l'occurrence de Sake-Goma, que nous entendons protéger au mieux de nos ressources, au mieux de nos moyens, évidemment en étroite liaison avec les forces congolaises et aussi la force de la SADC, SAMI RDC. Donc, je suis reconnaissant à la force de la MONUSCO pour le travail qui est fait dans des conditions qui sont difficiles.
La présence de cette force, ça peut rassurer la population de Goma et de Sake, entourée par les rebelles du M23?
C'est l'objectif, bien sûr, parce que nous avons une mission qui est de protéger les populations. Il y a un afflux de personnes déplacées dans cette zone. Je crois qu'il faut faire le maximum pour y parvenir, malgré les difficultés. La population a des partenaires, la MONUSCO, qui font de leur mieux pour atténuer leurs souffrances, les protéger et aussi tout faire pour ramener la paix.
Notez qu'hier, après sa rencontre avec le gouverneur militaire du Nord Kivu, le chef du maintien des opérations de paix de l'ONU a également rencontré les responsables de la SAMI DRC à Goma. Nord Kivu toujours. La peine capitale, c'est la sentence prononcée hier par le tribunal militaire de garnison de Goma à l'encontre d'un volontaire pour la défense de la patrie, VDP, communément appelé Mzalendo, dans le territoire de Nyiragongo. Jusqu'à sa condamnation, David Bioniki était poursuivi pour 2 chefs d'accusation, soit meurtre et dissipation des munitions de guerre. Rappelons que le condamné, garde du corps du colonel autoproclamé Bakabwe Bosco, alias Rams, dit Marazo de l'APCLS, en compagnie de son chef, avait tiré à bout portant sur l'élève Norbert alors qu'il revenait de l'école. La population venue assister à l'audience s'est dite indignée par la sentence prononcée par le tribunal, car selon la société civile locale, elle voulait voir le colonel Bakambwe Bosco, acquitté par la justice dans cette affaire, recevoir lui aussi une lourde peine. Par ailleurs, 21 groupes armés de la dynamique Wazalendo ont signé mardi un acte d'engagement à la paix dans le territoire de Lubero. Nous sommes toujours au Nord Kivu. C'était à l'issue d'une rencontre des 2 jours initiée par l'administrateur du territoire. Le colonel Alain Kiwewa affirme que cette rencontre avait pour objectif d'identifier et de localiser les groupes armés se réclamant Wazalendo dans son entité. Le colonel Alain Kiwewa, joint par Sadiki Aboubakar.
On devait en principe profiter de cette rencontre pour voir de quelle manière on devait identifier d'abord ces groupes. Il y a aussi confusion, donc on ne savions pas qui était avec nous et qui n'était pas avec nous. Donc il fallait que ces processus d'identification puissent être effectifs et même pour leur localisation. Mais ce qui était important également, c'était un acte d'engagement qui a été signé par tous. Et là-dedans également, il y a eu des problèmes sécuritaires. Il y a eu aussi ces problèmes de recrutement des enfants de moins de 18 ans. Il a été demandé à ce que cela ne se répète plus. Alors nous avions demandé à ces groupes qui gardent encore ces enfants de moins de 18 ans de le ramener dans les institutions qui cadre dans la protection des enfants, et ces organisations auront le devoir d'identifier leur famille et de le remettre à leur famille.
Pendant ce temps, en Ituri, des combats opposent depuis ce matin les casques bleus de la MONUSCO aux miliciens de la CODECO dans le centre de Boulé. Nous sommes à 90 km au nord de Bounia, dans le territoire de Djougou. Selon des sources locales, ces miliciens auraient attaqué des civils dans les camps des déplacés de Lala et la plaine de Savo après avoir tué un villageois qui s'est rendu au champ anglais. Alertés, les casques bleus onusiens se sont déployés sur place. Depuis ce matin, des tirs d'armes lourdes et légères résonnent dans la zone et toutes les activités sont suspendus. Aucun bilan disponible pour l'instant. Nous y reviendrons. Restons en Ituri pour signaler un déplacement massif des populations observé depuis mercredi autour du centre commercial de Fataki. Nous sommes à 85 km de Bounia, territoire de Djougou. C'est à la suite d'une incursion des miliciens de la CODECO qui a causé la mort d'une dizaine de civils, dont des femmes et des enfants. L'armée a renforcé ses positions sur l'axe Pimbo-Fataki où des centaines de familles fuient les menaces. Ezekiel Mouzalia nous fait le point.
Depuis mercredi matin, des villages situés le long des tronçons Jinapitso et Pimbo-Djougou Centre sont sous la menace des miliciens de la CODECO après le meurtre d'une dizaine de civils à Fataki. Sur l'axe Pitso-Pimbo, les habitants fuient les violences dans les villages de Jina, Nyapala, Fataki, Salo, Lenga et Ukpari. Des témoins rapportent l'exécution d'un homme d'une quarantaine d'années et l'incendie de plusieurs maisons. Certaines populations ont trouvé refuge près de la base de la MONUSCO à Djaïba. Les localités qui autrefois étaient animées sont maintenant désertes et toutes les activités paralysées. Cet habitant de Fataki témoigne.
Depuis qu'on a tué les gens ici, tout le monde a peur. Les gens partent dormir à la base de la MONUSCO. Si ces tueries n'avaient pas eu lieu, les gens seraient en sécurité ici. On a tué les gens à 200 mètres des FARDC. Nous avons déjà réclamé la sécurité, mais rien jusque-là. C'est le jour où on récupérera les armes que nous aurons la sécurité.
L'armée a renforcé ses positions sur la route nationale numéro 27 où la circulation reste timide sur l'axe Bounia-Mahagi. Des voix s'élèvent pour que le gouvernement neutralise ses miliciens. Depuis Boulé, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Direction la province du Kwango. Revenons sur le dernier naufrage dans la rivière Kwango. Le nombre des morts passe de 6 à 12. 6 autres corps sans vie ont été retrouvés dans la journée de mercredi en aval de la commune rurale Pont Kwango où le drame est survenu. Selon les sources officielles qui livrent l'information, il s'agit des corps des enfants qui ont été découverts par des pêcheurs. Les mêmes sources précisent que les recherches se poursuivent pour découvrir d'autres corps peut-être coincés dans l'embarcation sous l'eau ainsi que des marchandises. Restons dans le Kwango cette fois pour parler santé. Au moins 145 cas de monkeypox signalés dans cette province, dont 2 décès, soit un taux de létalité d'1,55%. Parmi ces cas, au moins 10 sont confirmés par l'INRB, précise le ministre provincial de la Santé. Dr Apollinaire Yumba indique que 10 des 14 zones de santé du Kwango sont touchées par la variole de singe. Il évoque plusieurs difficultés pour lutter contre cette maladie. Le ministre provincial de la Santé du Kwango, joint par Irène Boma.
Voici la situation Mpox au Kwango. Nous avons un cumul de 145 cas, dont 10 confirmés par l'INRB. Parmi les 10 cas confirmés, 6 cas sont de la zone de santé de Kenge et 4 cas sont de Kasongolunda. Nous avons 2 décès et la province a 14 zones de santé, mais l'épidémie touche déjà à ce jour 10 zones de santé et le taux de létalité est de 1,55%. La province a une difficulté d'intrants et des médicaments de prise en charge, mais surtout, nous manquons les kits de prélèvement. Et pour nous, c'est un cri d'alarme au gouvernement central pour venir en aide à la province du Kwango, notamment en kit de prélèvement des échantillons. Et nous demandons aussi que la province du Kwango soit retenue parmi les provinces prioritaires en ce qui concerne la vaccination contre le Mpox et autres activités de lutte.
Santé toujours, dans la province du Maniema, début ce jeudi de la campagne de riposte contre la poliomyélite, 6 zones de santé dont Kindu, Alungouli, Kailo, Obokote, Lubutu et Ferekeni sont concernées par cette campagne de 3 jours, soit du 19 au 21 septembre. On écoute à ce sujet le docteur Théo Katako, médecin chef de division intérimaire, propos recueillis par Florence Kizalunga.
L'activité d'aujourd'hui est très capitale. C'était pratiquement une activité de plaidoyer pour la campagne de riposte poliomyélite qui va concerner 6 zones de santé. En plus, on a fait aussi le plaidoyer pour le cas d'un enfant qui a été frappé par la paralysie flasque aiguë il y a 12 ans et qui a été abandonné à son triste sort. Et il fallait un plaidoyer pour voir comment subvenir à ses besoins éducationnels et ses besoins quotidiens. Nous sommes vraiment encouragés par l'engagement de son Excellence Monsieur le Gouverneur de province qui a mis la main dans la poche et tous les partenaires et les membres du gouvernement ont suivi. Et je pense que le gap est comblé par rapport à la campagne de riposte pour la poliomyélite. La campagne va se dérouler comme prévu dans son budget prévisionnel. La campagne va commencer le 19, le 20 et le 21. C'est pendant 3 jours et les vaccinateurs vont passer porte à porte. Et c'est une occasion pour nous de sensibiliser les mamans, les parents, de garder les enfants à la maison parce que les vaccinateurs vont passer à partir du 19, donc jeudi, vendredi et samedi. Évidemment, il y aura des rattrapages, mais formellement, c'est jeudi, vendredi et samedi.
Sud Kivu, une unité de production du bioéthanol a été inaugurée hier au sein de la fondation Panzi dans la ville de Bukavu. Cette usine servira à produire l'alcool éthylique qui sera utilisé à des fins médicales, notamment la fabrication du gel hydroalcoolique. C'est à base de la canne à sucre comme matière première et c'est dans le cadre du projet ONUDI, Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel, autonomisation des femmes vulnérables pour la stabilisation sociale dans l'Est de l'RDC. Projet financé par le gouvernement du Japon. Rachel Kiesse, reportage.
Ce projet fournit aux bénéficiaires des opportunités de génération de revenus liées à la production du bioéthanol pour désinfectants à partir de produits agricoles tels que la canne à sucre qui sont disponibles localement. Quel objectif vise ce projet? Bruce Kialangalilwa, biotechnologiste à ONUDI.
Mais nous visons deux choses. Nous visons premièrement une opportunité de business ou d'affaires pour les femmes vulnérables identifiées et affectées à ce projet. Deux, contribuer à la mise sur le marché local du produit éthanol que notre province importe en grande quantité de l'extérieur. Cette unité de production aura une capacité de 50 000 litres annuellement et nous pensons que ce sera assez suffisant pour couvrir tant soit peu 10-15% des besoins locaux.
C'est une opportunité d'affaires pour 300 femmes vulnérables qui fourniront la matière première devant être utilisée dans cette usine. Barishin Dijan Dark, président du regroupement d'intérêt économique Wamama Tuji Tegemei.
Et c'est le regroupement qui fournit les matières premières pour fabriquer les bioéthanol.
En quoi cette usine va aider ces femmes qui font partie de votre regroupement?
Ça va aider ces femmes à être indépendantes.
Bukavu, Rachel Kiesse, Radio Okapi.
Rendons-nous au Kasaï oriental. Début ce vendredi des travaux sur la piste d'atterrissage et de décollage de l'aéroport de Bipemba à Mbujimayi. C'est sur une distance d'environ 2000 mètres. Ceci intervient après l'arrivée à Mbujimayi le week-end dernier de l'engin permettant d'aplatir les surfaces. Le commandant de la régie des voies aériennes, Hervé Mbujimayi, l'avait déjà annoncé le mardi au gouverneur intérimaire. À cet effet, les programmes de vol sur Mbujimayi seront modifiés. Romain Tinyama, commandant de la RVA Mbujimayi explique au micro des journalistes accrédités au gouvernorat du Kasaï oriental.
Le mobile, c'est en fait nous qui sommes venus porter à sa connaissance, n'est-ce pas, l'arrivée de l'engin que nous attendions, qui est la fraiseuse. La fraiseuse, l'engin qui nous permettra de travailler sur la piste. Vous vous souvenez qu'on avait déjà lancé un calendrier qui devait être exécuté pour la piste. Bon, actuellement, on a l'engin sur place et on peut maintenant commencer les travaux. Cela veut dire qu'ici vendredi pour cette semaine, nous commençons vendredi jusqu'au dimanche, mais la semaine qui va suivre, la semaine prochaine, on ira de chaque jeudi au dimanche. Et les vols seront du lundi au mercredi et les jours de travaux seront du jeudi au dimanche jusqu'à fin travaux. L'engin est arrivé le samedi 14 et aujourd'hui on a fait le test était concluant, ce qui veut dire que d'ici vendredi nous lançons les travaux.
Province du Tanganyika, les enseignants d'une centaine d'écoles publiques du territoire de Moba, membres du syndicat des enseignants du Congo SIECO, maintiennent leur mouvement de grève. Cette décision ressort de l'Assemblée générale extraordinaire tenue mercredi à Moba par le SIECO. Ils disent maintenir leur décision malgré la confirmation de l'ajout par le gouvernement de 50 000 francs congolais sur le salaire des enseignants. On écoute Placide Muyumba, secrétaire permanent du SIECO Moba, dans cet extrait choisi par Paulin Munanga.
Nous avons constaté que les enseignants ont adopté le mot d'ordre du syndicat des enseignants du Congo qui ont maintenu la grève et qui ont accepté le mot d'ordre de rester à la maison pour toutes les deux semaines qui nous ont précédées. Pour tous ceux qui suivent, le syndicat des enseignants du Congo réunit en assemblée générale extraordinaire en dehors du bureau de l'éducation nationale nouvelle citoyenneté après avoir été refusé d'accéder dans la salle par le chef de la sous-division, le syndicat des enseignants du Congo venait de recevoir le virage vraiment des 50 000 francs congolais qui n'ajoutent à rien à leur vie sociale actuellement. Par conséquent, nous vous informons que les SIECO Moba progressent avec le mouvement de grève jusqu'à un nouvel ordre. Nous mettons en garde tous les chefs d'établissement qui passent par des mots d'intimidation et toutes les autorités qui se cachent derrière les dos de la Dinacopé qui seront là pour nous désactiver. Et tant que Congolais, nous demandons la répartition équitable de nos ressources économiques afin que nous soyons légitimement connus comme les Congolais.
Actualité internationale. Nous sommes au Nigeria. Plus de 400 000 personnes sont touchées dans le nord-est du pays, selon l'ONU. Dans l'état de Borno, les pluies ont forcé de nombreuses personnes à quitter leur maison pour se réfugier dans des camps de fortune. Environ 15% des Maïdougouri, la capitale de l'état de Borno, est sous les eaux.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons Liliane Komba, vice-présidente de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Elle a initié une opération de collecte de fonds en faveur des femmes victimes de viols dans la prison de Makala à Kinshasa lors de la tentative d'évasion le 1er septembre dernier. Liliane Komba s'entretient avec Jean Gandou.
Liliane Komba, bonjour.
Bonjour, monsieur Jean Gandou.
Pourquoi organiser une collecte en faveur de femmes victimes de viols à la prison de Makala à Kinshasa?
C'est pour apporter notre accompagnement moral, psychosocial, financier, physique, pour que ces femmes retrouvent leur sourire et que les bourreaux soient sanctionnés avec toute la célérité. Comme on l'a dit, violence faite à la femme, dont les plus vils les viols, tolérance zéro. Que jamais pareil cas ne se répète, parce que la femme est la mère de l'humanité et la jeune fille sont nos œufs pour l'avenir de demain. Il y a une qui a succombé parce que n'a pas été à la hauteur de subir ces violences, ces traumatismes.
Ben, nous savons que dans un passé fort récent, à la prison de la Kasapa, à Lubumbashi, avec également les mêmes faits, parce qu'il y avait une tentative d'évasion. Pourquoi de telles choses doivent-elles se répéter?
C'est parce qu'en amont, on ne fait pas tellement la prévention, et en aval, mais quand rien n'est fait, ça encourage toujours. Il faut séparer les hommes et les femmes par des murs solides, sinon l'histoire va encore se répéter. C'est comme si on avait remué les couteaux dans la plaie, alors on va encore marteler pour que jamais pareille situation ne se répète.
Mais ici, même à Lubumbashi, vous avez organisé une collecte en faveur de ces victimes. Dites-nous, votre collecte servira à quoi?
Nous, notre collecte consistera même à appuyer les avocats dans leur transport. C'est vrai. Quand on est dans la tristesse, quand on est dans un événement malheureux, l'apport vient de partout et c'est là qu'on solide. C'est vrai, nous sommes avec nos frères, nos sœurs, spirituellement, moralement, physiquement, mais si on y ajoute aussi les financiers, si minime sera-t-il, je crois que ça apportera toujours un bienfait.
Ben, y en a qui estiment que pour que ce genre de choses ne se reproduisent plus, il faudra que l'on construise des nouvelles prisons.
Ça c'est vrai, il faut toujours un accompagnement holistique, c'est vrai. Nous allons aussi avec un fort plaidoyer que quand on va harmoniser pour Makala, qu'on pense aussi à toutes les autres prisons comme Kasapa et dans toutes les autres provinces. Une prison ou un centre pénitentiaire comme Boulouo devrait être en brousse. Mais quand c'est avec la population, cela aussi favorise les évasions et tous les corollaires. Parce que quand les gens s'évadent, les gens peuvent venir de l'intérieur tout comme de l'extérieur. Alors pour éviter cela, il faut que les prisons et les centres pénitentiaires soient isolés des populations pour deux raisons, pour la sécurité et aussi pour la rééducation. Imaginez ce qu'ils ont fait. Donc ce sont des délinquants de taille. Les gens se disaient, mais quelqu'un qui fuit, comment il aura le temps? J'ai dit, oui, c'est réel. Ils ont fait sale besogne, abuser des femmes qui sont leurs mères, qui sont leurs sœurs. Imaginez.
En pareille circonstance, que peuvent faire les victimes?
Les victimes doivent dénoncer. Les victimes doivent se défouler et accompagner ceux qui les appuient dans la justice à tout dire et à parler de tous les méandres qui ont concouru à ces actes ignobles. Vous savez, dans la loi 2006 innovée, il est dit que la victime est le témoin principal des faits. Parce que quand on fait ces abus sur la personne, et la personne a le temps même de démasquer son bourreau. Et si on est parvenu à en arrêter quelques-uns, c'est parce que les victimes les ont identifiés et on les encourage de faire davantage, à dénoncer. Parce que quand on dénonce, c'est le début aussi de mettre fin à tout ça. Et qui dit dénoncer, c'est pour en appeler la justice, pour que la justice soit bien faite.
Enfin, quand est-ce que vous comptez ramener cette collecte aux bénéficiaires?
Quand on va arriver à Kinshasa, nous pensons remettre notre enveloppe à la personne qu'on nous aura indiquée pour l'accompagnement des avocats, pour les appuyer dans le transport, parce que nos moyens sont modiques. C'est notre cœur qui est riche. Et on donne ce quand nous allons quitter, c'est dans un avenir très proche. Comme je vous ai dit, ma mère me dit toujours, quand tu quittes, que les gens ne les sachent pas, et quand tu rentres, c'est pour les besoins de sécurité à venir.
Eliane Komba, je vous remercie.
Merci beaucoup, Monsieur Jean Gandou, et tous les plaisirs étaient pour moi.
C'était là la vice-présidente de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Par ici prend fin ce journal. Vous pouvez retrouver l'actualité également sur la chaîne WhatsApp de Radio Kapi. Merci de vous abonner. Très bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix.